Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans une dizaine de minutes, le retour de Thierry Crépin qui nous présentera sa chronique des ballons ou une certaine histoire du football. Puis dans 30 minutes, le journal de Tumulte, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. C'est le contenu de ce Tumulte numéro 1000. Jean au micro, salut.
Ici à Sfax, hier à Sousse. Demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À nous des lignes. Hier à Sousse. Aucun amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. Hier à Sousse. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne lit dans la même humeur.
Hier à Sousse, c'était Bachung, suivi de Iba Bitoa avec Pavel Fight.
Peřinách
magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. L'heure du retour de Thierry Crépin pour sa chronique des ballons. Chronique des ballons. Une certaine histoire du football racontée par Thierry Crépin.
Salut à tous. Aujourd'hui, football et guerre froide. Guerre froide qui a imprégné le monde du football, alors même que la FIFA, la Fédération Internationale de Football, officiellement affichait une neutralité politique, teintée de beaucoup de complaisance envers tous les régimes autoritaires, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et les footballeurs d'Europe de l'Est ont très tôt posé des problèmes à la FIFA en raison de leur volonté de liberté. Dès 1949, Laszlo Kubala jette le trouble international tchèque, il passe en Hongrie, où il joue même dans l'équipe nationale hongroise, puis il s'enfuit d'Hongrie pour passer clandestinement en Italie, puis en Espagne. Et en Espagne, il est engagé par le prestigieux Barça, le FC Barcelone. Et la fédération hongroise décide alors de le suspendre à vie. Et pour bien faire, il est en plus accusé d'escroquerie et d'avoir volé son club, le Vasas Budapest, et condamné donc à la prison par contumace. Et donc la fédération hongroise demande à la fédération internationale de faire suspendre Kubala partout où il pourra jouer, c'est-à-dire même en Espagne. La fédération espagnole refuse, probablement sur un ordre même de Franco, puisque non seulement vedette du FC Barcelone, Kubala est intégré à l'équipe nationale espagnole pour des matchs amicaux. Parce qu'en match officiel, la FIFA refuse de laisser Kubala jouer. D'ailleurs, les Espagnols protestent avec véhémence, puisque lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 1954, Kubala ne peut pas jouer et l'Espagne est éliminée. Or, Kubala est un des meilleurs joueurs du monde à l'époque. D'ailleurs, ce qui montre le paradoxe entre et le malaise de la FIFA dans cette histoire, c'est que d'un côté, Kubala ne peut pas jouer en équipe nationale espagnole, la FIFA essaie de transmettre les volontés de la fédération hongroise, et de l'autre, Kubala est sélectionné dans l'équipe de la FIFA pour jouer contre l'Angleterre en 1953. Et les problèmes avec les joueurs venus de Hongrie explosent en 1956. 1956, donc invasion soviétique en Hongrie, et les meilleurs joueurs hongrois quittent le territoire. 240 joueurs de première et deuxième division quittent la Hongrie. Et au moment de l'invasion soviétique, la meilleure équipe de Hongrie, l'équipe qui est le symbole du football hongrois, le Honvéd Budapest, ont tourné à l'étranger. Alors bien sûr, les joueurs et les dirigeants ne veulent pas rentrer, et ils continuent leur tournée en Amérique du Sud. Ils jouent contre les clubs sud-américains les plus prestigieux, les grands clubs brésiliens, Botafogo, Flamengo, et ces rencontres sont même l'occasion de manifestations anticommunistes, puisque le président de la République brésilienne, avec son gouvernement, vient assister à ces rencontres et donc montrer toute son opposition au communisme. Donc le football est vraiment plongé dans la guerre froide. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs hongrois avaient été finalistes de la Coupe du Monde en 1954. Et c'était l'équipe considérée comme la meilleure du monde et qui avait été surprise par l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde en 1954. Donc l'Espagne se précipite sur les meilleurs joueurs hongrois. Coxis, Puskas, Xibor vont jouer au FC Barcelone et au Real Madrid. Alors bien sûr, la fédération hongroise exige la suspension des joueurs passés à l'étranger, puisque pour elle, il ne s'agit pas d'exilés politiques. Elle ne peut pas reconnaître que des footballeurs osent quitter le paradis communiste. Il s'agit d'individus qui veulent s'enrichir en jouant au football, en passant à l'Ouest illégalement. Et la FIFA est bien ennuyée, puisque les clubs espagnols sont parmi les meilleurs d'Europe. Ce sont aussi les ambassadeurs du franquisme. Or, la FIFA a toujours été très conciliante avec Franco. Et donc, finalement, sont suspendus 2 ans les joueurs du 11 de Budapest pour avoir donc quitté la Hongrie sans autorisation, puisqu'ils n'ont pas respecté les règles des transferts internationaux, et pour avoir désobéi à la FIFA par une tournée en Amérique du Sud illégale. Et les autres joueurs de première et deuxième division sont suspendus 1 an. En fait, les grandes vedettes du FC Barcelone, du Real Madrid passent à travers. Et en fait, la fédération hongroise ne parvient pas à empêcher que Puskás, par exemple, gagne à de multiples reprises la Coupe d'Europe avec le Real de Madrid. Donc, une guerre froide qui a plongé la FIFA dans l'embarras, et une guerre froide qui n'a pas empêché finalement les vedettes hongroises de choisir la liberté et d'enchanter l'Europe du football. À bientôt.
La chronique des ballons. Ou une certaine histoire du football racontée par Thierry Crépin. Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans une quinzaine de minutes, ce sera le journal de Tumulte. Nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1, pour discuter économie. Musique avec le quartet Secrets, Mark Feldman violon, Hurricane au piano, Greg Cohen à la basse et Joey Baron à la batterie. Et après le quartet Secrets, le quartet Zakaria.
We'll be right back.
Pascal Comelade, rue des Sœurs Noires, et c'est l'heure du journal de tumulte. Le journal de tumulte avec Guy. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Nous allons parler avec lui du bilan de la réunion du groupe G20. Des conséquences de la crise sur l'emploi et puis c'est par où la sortie ?
On s'entend pas dans le casque là, genre putain, c'est un millième et puis tu nous règles même pas le studio. Moi j'hallucine quand même. Il t'en faudra combien, genre, pour que ce soit bien le studio,
pour que ce soit au point.
Il en faudra un certain nombre pour que Guy arrive à l'heure et puisse faire les essais micro à temps.
Je suis à l'heure, hein. Donc le journal de tumulte dans quelques instants. La millième, bon Jean, t'essaies de le faire discrètement. On va le faire discrètement, hein, t'inquiète pas, mais quand même. La millième de tumulte, si j'ai bien compris, on va parler du G20, hein, donc 20 fois 1000, ça fait
20 000.
Ouais, je vais la faire un peu maths, enfin calcul, hein. Bon, j'ai pas le choix avec un prof de maths comme homme orchestre, hein. On dirait pas d'ailleurs, hein, qu'il est prof de maths, mais oui, il est prof de maths, là, le monsieur qui est là-bas. Donc on va la faire maths, on va la faire calcul, cette introduction au millième journal de tumulte. C'est pas tout à fait le millième, parce qu'il n'y a pas eu chaque tumulte des journaux, mais enfin, on fait comme si. 20 fois 1000, Jean.
Bah, pourquoi tu ne me demandes pas à ton invité, là, Laurent, 20 000 alors,
20 000, hein. Je veux vérifier que tu es bien prof de maths. Alors non, Jean, rassure-toi, 20 000 tumultes, c'est pas l'objectif que te fixe Radio PFM pour t'offrir une médaille. Quelques calculs assez simples vont par contre nous permettre de te fixer un but. Doubler la mise. Doubler la mise, et ouais, Jean, c'est possible, et je vais en faire la démonstration ici même. Donc on en était à 20 000. Le hasard, c'est quand même étonnant. Vendredi dernier, Jean, c'est ton quotidien préféré.
Libération.
Bon, raté. Il connaît même pas son quotidien préféré. Donc Jean, vendredi dernier, ton quotidien préféré fêtait son 20 millième numéro.
Alors, l'équipe.
Bien gagné. Bon, je déconne, je sais, t'aimes pas l'équipe, hein, c'est pas ton truc, sauf s'il s'agit d'une bonne équipe syndicale ou d'une bonne équipe radio. Quand même, aujourd'hui, la millième d'un magazine hebdomadaire, tumulte, et il y a 4 jours, la 20 millième pour un quotidien. C'est le temps qui passe. Au fait, Jean, en quelle année est née l'équipe ?
La vache,
hein, Laurent, toi qui es un grand lecteur. Il y a Thierry aussi qui n'est pas très loin, qui pourrait peut-être nous donner une indication.
Oui, surtout que c'est un spécialiste de la bande dessinée
pour
enfants.
Hein, c'était le début de la guerre froide.
Donc les années 50.
Allez, 1946. Donc il a fallu que l'équipe attende 4 ans pour te connaître, Jean, n'est-ce pas ? 1946 plus 1950 égale 3896. 20 000 moins 3896 égale 16 104. Pour en terminer avec l'équipe, avant de revenir à Tumulte, à l'occasion de ce numéro 20 000, le journal L'Équipe a demandé à des sportifs connus de désigner le champion des champions de ces 60 dernières années. Alors, t'aurais dit qui, toi, Jean ?
De ces
60 depuis 1946, ouais, le champion des champions.
Pelé,
bon, c'est Pelé.
C'est plutôt tendance foot, là.
Ouais, tendance foot. Il est arrivé deuxième ou troisième du classement.
Et toi, Laurent, t'auras dit qui ?
Bah, le nageur américain, là, qui avait tout gagné.
Mark Spitz.
Non, j'aimais bien le coureur de fond.
Coureur de fond, là. Zatopek. Ouais. Et Thierry, qui est là-bas, lui, il dit qui ? Il est un peu loin, mais qu'est-ce qu'il a dit, Jean ? Anctil.
Jacques Anctil.
C'est international, hein, vous êtes des petits joueurs quand même. C'est Mohamed Ali. Avouez que,
c'est pas mal,
comme champion tumultueux, Ça le fait bien, hein, c'est un champion tumultueux par excellence. Alors je vais pas... Bon, avant de poursuivre, Jean, quand même, toi, ton plus grand tumulte depuis le numéro 1, c'est quoi? Paf, là, voilà. Bon, tu t'en souviens pas?
Non.
Bon, tu réfléchis et puis on y reviendra tout à l'heure. À partir de 21h, on fera un petit truc spécial, hein, quand même, parce qu'il ne faut pas déconner. Donc, je ne vais pas te demander, Jean, quelle année Cassius Clay s'est converti à l'islam et est devenu Mohamed Ali. Mais je ne te le demande pas. Hein. Bon. Mais c'est en 1900...
Ça va aller vite,
ouais, l'émission. Je te le demande pas. C'est... Qu'est-ce qu'il a dit?
71.
Oh.
Moi, j'aurais dit avant 68.
Avant, ouais, je pense que c'est avant.
En plein Vietnam.
En tout cas, c'est en 1966 qu'il se fait plus tumultueux que jamais. Il refuse de servir dans l'armée US au Vietnam. « Je n'ai pas de querelle envers le Viet Cong », explique-t-il. « Eux ne m'ont jamais traité de négro ». Ça, hein, ça c'est parlé. 1966, deux ans avant un grand tumulte, 1968, tumulte n'existait pas encore, hein, bien entendu, sinon je pense que Jean, c'est bien entendu l'événement que tu aurais cité. 1968 moins 1966 égale 2. Deux. Bien. On en était à 16104. 16104 divisé par 2, 8052. Retour à tumulte. Tumulte avec un S. Hein, l'émission, ton émission, genre, il y a bien un S. Donc, si j'ai bien compté, c'est 8 lettres. T-U-M-U-L-T-E-S. 8 lettres. Tumulte n'a jamais fait la une de l'équipe.
Non.
On est d'accord avec ça. Donc, 8 plus 1, 9. C'est la millième de tumulte. Et on est en 2009. 2009 moins 1000 égale 1009. 1009 plus 9 égale 1018. 8052 moins 1018 égale 7034. Vous me suivez?
Jean,
selon mes calculs, c'est dans deux ans que tu prends ta retraite. À peu près. Deux ans. Hein, on est d'accord. Ah, d'accord.
Si les règles ne changent pas.
Voilà. 7034 divisé par 2, 3517. Jean, tu revendiques combien d'annuités d'activité pour avoir droit à une retraite à taux plein?
Je revendique 37,5.
37, je m'en doutais. Hein, 37 annuités et demi, donc 37,5. Tumulte dure 1h30. 1h,5. 37,5 plus 5,5 égale 39. D'accord ? À raison d'une quarantaine de tumultes par an, on en est à 1000 divisé par 40, donc à 25 ans de tumulte. 25 fois 39 égale 975. 3517 moins 975 égale 2542. Dans deux ans, donc, retraite, genre retraite de l'éducation nationale, mais pas retraite de Radio PFM. Du temps... tu vas en avoir, et pour que tu ne t'ennuies pas, Radio PFM te fera une fleur dans ce micro, dans ces studios. Et ben cette fleur, c'est pas que tout le monde soit fan hein, de tumulte, surtout la partie musique, le journal, oui, mais la partie musique, hein, mais c'est ce qui s'appelle la reconnaissance, on va dire, pour service rendu. PFM, à partir du moment où tu seras en retraite, te propose de passer en quotidien. 5 tumultes par semaine. On te laisse les vacances scolaires, les grandes. Hein. Eh oui, bon, t'as pris de mauvaises habitudes, Jean, donc ça, on peut pas y revenir. Donc 5 tumultes par semaine fois 40 égale 200. Et à la fin de la première année, tu auras 61 ans. 200 plus 61 égale 261. À la fin de la deuxième année, 261 fois 2, 522. On en était à 2542. 2542 moins 522, 2020. Avant tumulte, si ma mémoire est bonne, Jean, tu animais une émission qui s'appelait 100 sur 100. Mmh. Voilà, gagné. 100 sur 100, ça fait 1. Et Laurent, hein, c'est vrai que Jean a toujours la pêche de ses 20 ans. Hein, c'est vrai.
Oui, la même tête même.
Voilà, 2020 moins 20 égale 2000. Voilà, la démonstration est faite. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas à 2000 tumultes, Jean. Laurent, le G20 au secours du capitalisme ou au secours des victimes du capitalisme?
Oh là, tu aurais dû me passer la question il y a 2-3 jours que je la prépare un peu mieux. Oui, non, mais alors, mais ça me faisait penser ton intervention que tout de même, ça fait quand même 25 ans qu'on commente ici à ce micro les déboires du capitalisme néolibéral. Tout de même, on pourrait dire que Tumulte n'a vécu que sous l'ère néolibérale. Bon, une ère néolibérale qui s'est en plus terminée en apothéose par un capitalisme financiarisé grandiose. Mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour les 25 prochaines années, puisque ça fait à peu près ça, 1000 émissions de Tumulte, c'est peut-être quand même une sortie par le haut.
Du socialisme libéral peut-être, non ?
Oui, alors là, personne pour l'instant n'a sorti cette carte maîtresse. Ah, enfin, oui, oui.
Enfin, bon,
à qui tu penses ?
À qui je pense ? Je pense à Keynes, d'une certaine manière. Mais je pense qu'il y a un autre économiste qui se revendique de ce courant, qui s'inspire de Keynes. Dominetti ? Non ? Ça te dit quelque chose ?
Dominetti ?
Ouais. Non.
C'est bon. Pas le surnom de Dominique Strauss-Kahn ?
Non. Bon, allez, le G20 au secours du capitalisme, ça, c'était le titre du Monde.
Oui. Même dans cette perspective qui est de sauver le capitalisme, on peut tout de même mieux faire. Parce qu'il n'est tout de même pas certain que ce G20 soit allé suffisamment en profondeur pour remettre la machine sur les rails. Ce que l'on peut dire de ce G20, c'est qu'en apparence, il a pris à bras-le-corps deux dossiers et donné un petit peu d'espoir et de visibilité sur ces deux dossiers. Le premier, c'est les paradis fiscaux. Et le deuxième, c'est la remise en selle des grandes institutions internationales, dont le FMI. Mais en réalité, même quand on gratte un petit peu sur le premier dossier, s'agissant des paradis fiscaux, il faut être très dubitatif. Ce qui a été fait, c'est de faire trembler un petit peu, comme on le fait d'ailleurs depuis une quinzaine d'années, la plupart des pays qui ont mis en place un secret bancaire, en leur disant « cette fois-ci, c'est vraiment, vraiment, vraiment fini ». Et la preuve que c'est vraiment, vraiment, vraiment fini, c'est qu'on va vous mettre sur la liste grise de l'OCDE. Et on va demander à l'OCDE de publier une liste grise. Et nous, le G20, comme on est très courageux, on dira qu'on est d'accord avec la liste de l'OCDE. En gros, c'est à peu près l'essentiel de ce qui a été fait pour lutter contre les paradis fiscaux lors de ce sommet du G20.
Alors tu disais que c'était quand même un petit espoir, ça allait dans le bon sens. Enfin, est-ce que c'est une manière de réagir ?
Mais ce qui reste à faire maintenant, c'est que les pays qui le voudront pourront mettre en place éventuellement des rétorsions vis-à-vis de ces pays-là, à condition, enfin, si jamais ils ne se montrent pas coopératifs dans la réponse aux autorités judiciaires. Je ne suis pas sûr du tout que les règles communes soient mises en place et qu'elles le seront. Théoriquement, il faudra attendre le mois de novembre que les travaux issus de ce G20 se terminent. Mais enfin, on peut vraiment douter que grand-chose se mette en place à cet endroit-là. Le vrai point positif, peut-être, c'est le renflouement du FMI, ou plutôt le renflouement de la capacité de prêt et d'intervention du FMI, qui va malheureusement devoir intervenir. Parce que de plus en plus d'États, et en particulier en Europe, ne passent pas très loin du risque de défaut. Et ces États-là, peut-être, pourquoi pas, déjà, la Hongrie a profité de l'intervention du FMI en Europe. La Grèce pourrait peut-être y avoir recours. D'aucuns n'excluent pas complètement la Grande-Bretagne. Parce que ces pays ont de plus en plus de mal à lever des capitaux dans des conditions normales, ces États, pour pratiquer leur relance. Donc,
juste Laurent, qu'est-ce que tu appelles risque de défaut ? C'est risque de faillite des États ? Ça veut dire quoi ?
On n'est pas très loin de cette situation dans certains cas, en particulier dans le cas de l'Irlande, dans le cas de la Grèce. Les primes de risque sur la dette de ces pays-là augmentent très fort, ça veut dire que les taux d'intérêt auxquels ces États peuvent s'endetter ont très fortement augmenté dans ces 6 derniers mois. Donc les prêteurs craignent un risque de défaut, et si cette crainte ne fait que s'amplifier, il n'y aura plus de prêteurs. Et s'il n'y a plus de nouveaux prêteurs, il n'est plus non plus possible de rembourser les précédents, puisqu'un État, généralement, emprunte pour rembourser, emprunte à de nouveaux créanciers pour rembourser ses anciens créanciers, restructure sa dette en permanence. Eh bien, on est dans une situation où certains États vont avoir du mal à faire ce type d'opération et vont devoir se tourner vers le FMI pour trouver un prêteur. Donc ça, c'est sans doute une bonne chose d'avoir renforcé la capacité d'intervention d'urgence du FMI, mais c'est plutôt le signe que ça va vraiment mal que le signe que nous sommes sortis du tunnel.
Alors le rôle accru du FMI, pourtant on a eu l'habitude d'avoir un FMI qui est intervenu ces dernières années auprès de différents pays, en particulier les pays du tiers-monde, en leur imposant des politiques ultralibérales qui les ont ruinés, quoi, enfin, ou qui ont affamé leur population. Alors donner un rôle accru au FMI...
Oui, d'autant plus qu'on n'a pas la garantie que les choses aient vraiment changé sur les plans d'ajustement. Simplement, peut-être les manières de faire sont plus diplomatiques. Mais quand le FMI intervient pour renflouer un État ou un gouvernement, il demande à cet État de lui présenter un plan d'ajustement. Et puis le FMI dit oui ou non au plan. Alors je ne sais plus où c'est, mais c'est peut-être en Lettonie ou en Hongrie, l'un des deux. La proposition pour redresser les finances publiques a quand même été de tailler, enfin de diminuer de 15% les salaires des fonctionnaires. Donc comme manière d'amortir ou de surmonter la crise financière, proposer que la variable d'ajustement soit les salaires des fonctionnaires, ça dit certaines choses sur les réorientations des politiques d'ajustement structurel. Maintenant, sur le bilan du G20, globalement, c'est vrai que tous les secteurs ont été balayés. Si on regarde ce qui était l'ordre du jour de ce G20, bah, ça passait en revue toutes les nuisances dont était capable la finance. On a promis de mettre un peu plus d'ordre dans les fonds spéculatifs, les hedge funds. On a évidemment prévu... de toiletter ou de contrôler un peu mieux les paradis fiscaux. On a promis d'améliorer les pratiques comptables pour éviter que les banques se retrouvent en faillite en comptabilisant leurs actifs au prix de marché, etc. etc. Mais en réalité, on promet du contrôle, de la régulation, de la supervision, mais on n'a enlevé aucune pièce du puzzle. On n'a interdit aucun type d'agent, on n'a interdit aucun type d'opération, on n'a interdit aucun type de marché. Donc tout ce qui était en place avant la crise financière reste en place.
Donc ça veut dire que même du point de vue de la sortie de crise capitaliste, les choses n'ont pas avancé, quoi.
Elles n'ont pas beaucoup avancé, et même peut-être très peu. Un seul exemple, enfin il est quand même significatif. Dans le communiqué final du G20, il est dit que les États comptent étendre la réglementation et la surveillance à tous les instruments, les marchés et les institutions financières d'importance systémique. Et cela comprend pour la première fois les fonds spéculatifs d'importance systémique. Ah, on se dit, ce coup-ci, ça y est, ils vont vraiment aller mettre leur nez dans ce que vont faire les hedge funds et donc ces fonds spéculatifs qui peuvent intervenir sur tout type de marché et aussi sur les marchés de matières premières, mais qui peuvent aussi servir à financer des rachats d'entreprises, de PME, dans des objectifs uniquement de restructuration et de spéculation sur la valeur des entreprises. Bon, on se dit, ils vont aller y regarder. Mais ils vont aller y regarder à condition que ces institutions aient une taille suffisamment importante pour constituer un risque systémique. C'est quoi ? C'est-à-dire qu'en cas de défaillance de ces établissements, ils risquent d'emporter dans leur faillite beaucoup de créanciers et donc d'être à l'origine d'un effet de domino. C'est ça l'idée. Donc vous ne serez surveillé qu'à la condition que vous soyez suffisamment important pour être suffisamment nuisible éventuellement pour créer un effet de domino. Mais en réalité, les nuisances essentielles de la finance ne sont pas toutes venues d'effets systémiques. Si demain, à la faveur du redémarrage économique, vous avez de nouveau de la spéculation sur les matières premières agricoles, ou de la spéculation sur les produits pétroliers, les ressources fossiles, parce que ces hedge funds cherchent à se repositionner sur des valeurs dont elles anticipent la hausse. Si ces établissements ne sont pas de taille, sont tous de taille modeste, mais s'ils sont un millier ou 2000 ou 3000 à faire la même chose et à prendre les mêmes positions, on aura des emballements systémiques. Donc on voit bien qu'il n'y a vraiment aucune leçon, d'une certaine façon, qui est tirée. Les nuisances ne viennent pas simplement du fait que des gros mammouths ont créé des effets de domino dans la finance. Les nuisances sont venues du fait que des milliers de banques se sont mises à prêter de l'argent sous forme de crédit subprime à des gens qui n'avaient pas le pouvoir de rembourser. Et c'est cette ruée, ce comportement de foule d'établissements de crédit qui est extrêmement nombreux qui a initié la panique.
Alors donc, on disait un G20 au secours du capitalisme, mais même pas vraiment. Et pour le, on va dire l'autre aspect, les victimes de la crise. Donc un G20 pour presque rien. Donc ça, c'est le titre d'un tract produit par un collectif qui s'appelle Nous ne paierons pas pour leur crise, un collectif composé d'associations, donc les associations Agir ensemble contre le chômage, etc., de syndicats, la Confédération paysanne, certaines fédérations CGT, la FSU, l'Union syndicale solidaire. Il y a aussi des organisations politiques qui soutiennent, les alternatives, le NPA, le Parti de gauche, les Verts, le Parti communiste français, etc. Donc pour toutes ces organisations, le G20 n'a apporté aucune réponse à la crise globale qui frappe l'ensemble de la planète. Et donc aucune réponse concrète à toutes les victimes que nous sommes tous finalement de cette crise. Tu partages aussi cette...
Non mais je partage complètement cette analyse. On peut même se demander si... On peut même se demander si on n'a pas reculé à l'occasion de ce G20 au niveau des analyses qui sont faites de la crise et des réorientations idéologiques que ça mobilise. Peut-être un tout petit bout de littérature sur le communiqué final qui est tout de même intéressant. Donc les États se disent d'accord pour renforcer les régulations et mettre en place une vigilance renforcée, qui doivent promouvoir la propriété, l'intégrité et la transparence. Nous garder des risques inhérents au système financier. Alors on se dit, c'est bien, on reconnaît enfin des risques inhérents au système financier. Freiner plutôt qu'amplifier les cycles financiers et économiques. C'est du simple bon sens. Réduire le recours à des sources de financement trop incertaines. On se dit, aurait-il pu écrire le contraire ? Bien. Et décourager les prises de risques inconsidérées. Bonne idée. On continue. Les régulateurs et les superviseurs, donc là on voit tout de suite que ça va être punitif, hein. Les régulateurs et les superviseurs doivent protéger les consommateurs et les investisseurs, encourager la discipline de marché. Alors je ne sais pas trop sur quoi on compte, mais on compte sur sans doute une vertu particulière du marché qui est de mettre spontanément de l'ordre parmi ses ouailles. Donc encourager la discipline de marché, éviter les chocs préjudiciables aux autres pays, tant mieux, réduire les arbitrages régulatoires, ça j'avais jamais entendu parler, favoriser la compétition et le dynamisme, tout est dans tout et réciproquement, et surtout suivre le risque des innovations du marché. Bon. Donc on imagine les régulateurs de la finance continuer de courir derrière les petits génies de la finance au rythme où s'effectuent les innovations du marché. Enfin, c'est complètement symptomatique, c'est-à-dire c'est un vrai recul d'une certaine manière. On continue avec le gâtisme qui prévalait dans la période antérieure. On va suivre de près les innovations du marché. Et au bout du compte, on ne suit rien du tout.
Donc au bout du compte, la crise qu'on connaît, elle va continuer. On parle malgré tout ces jours-ci, là, ces derniers temps, de possible redémarrage léger.
Redémarrage économique, reprise.
Reprise. Ça paraît crédible ou est-ce que c'est pour empêcher que les salariés continuent à séquestrer leur patron?
Oui. C'est sûr que tout le monde essaie de donner du courage hein, dans la période actuelle et donc essaie de détecter, comme on dit, le moindre signal faible selon lequel on aurait touché le fond. Donc personne, je pense, ne prétend que c'est la reprise. Il y a tout de même des conjoncturistes qui prétendent qu'on aurait touché le fond. Mais ça ne veut pas dire qu'on va remonter. Et alors évidemment, il est impossible à l'heure actuelle de...
Ah oui, attends, Laurent, je vais te dire, ce matin j'ai entendu sur France Inter ce truc en V. Alors ça, on touche le fond, on remonte, mais attention, ça peut être un W. Ah, alors, oui. On touche le fond, on remonte un peu.
Oui. Non, mais bon.
C'est vraiment descriptif.
Ça donne un peu une indication du désarroi des conjoncturistes. Et bon, à l'heure actuelle, on ne peut absolument pas dire que. D'abord, on aurait vraiment touché le fond. Et surtout, ce ne serait vraiment pas du tout les prémices d'une reprise. Et si cette reprise avait un tout petit peu lieu, effectivement, ça pourrait être un tout petit sursaut. On l'a dit ici, la violence même de la chute. Laisse penser que tout de même il y aura des moments moins pires, hein, parce que c'est pour beaucoup dû au fait que les agents économiques ont tous en même temps et de manière coordonnée retardé leurs projets, soit d'investissement, soit de consommation de biens durables. Donc il y a forcément un moment où on ne peut pas complètement tirer sur la corde ad infinitum. Il y a un moment où il faut bien refaire certains types d'investissements qui deviennent absolument nécessaires. Et puis à certains moments, des projets de consommation qui avaient été différés sont quand même faits. Donc, sans doute, il y aura un rebond. Ça, c'est assez prévisible. Mais ça ne préjuge pas du tout d'une reprise flamboyante. Ce qui pourrait se passer le plus probablement du monde, si on n'introduit pas de nouvelles régulations dans le capitalisme, c'est une espèce de reprise en accordéon. Hein, où dès qu'on aurait une augmentation de la demande et une reprise de l'activité économique, on reviendrait en butée sur la spéculation sur les matières premières et en particulier les ressources énergétiques. Ça, c'est tout à fait probable. Dès qu'il y aura des signes patents de redémarrage, la spéculation s'engouffrera de nouveau sur les achats de produits énergétiques et on sera de nouveau confronté à une facture énergétique extrêmement élevée qui viendra étouffer le redémarrage.
Alors, Jean, tu parlais de séquestration de patrons. Est-ce que tu sais comment ça commence, la séquestration d'un patron ?
Comment ça commence ? Eh bien...
Bon, ben vas-y, discute un petit peu de ça avec Laurent, puis tu vas voir.
Ah bon ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Ouais. Continue, là.
Non, mais parce que tu penses, Guy...
Il fait du bruit comme tout, là. Qu'est-ce qu'il nous fait ?
Ben, je pense que Guy m'a laissé entendre tout à l'heure que ça faisait quand même 25 ans qu'on n'avait pas été augmenté, Jean. Hein ? Guy et moi, on vient à cette émission assez régulièrement. Hein. On touche rien du tout. Oh. Voilà, ça c'est...
Ça y est, Jean Puré. Allez, Thierry, il est où là ? Il faut nous l'attacher à son siège
de commentateur.
À son siège de commentateur. Ah, Jean, tu pensais faire 1000 émissions comme ça, hein ? Comme ça, les mains dans les poches, derrière le micro. Alors, il y a quelques amis qui vont arriver. En attendant, Laurent, toi, une petite réaction quand même sur cette 1000e. Quelques souvenirs.
Ah non, c'est quand même émouvant. Ben, comme ça, sur le coup, des souvenirs, j'en ai pas à sortir tout de go. Jean.
Bah écoute, moi, non, j'ai pas. Qu'est-ce qui nous fait
On a été impressionné par les mitraillettes dans le studio. On s'attendait pas du tout à ça. Et puis, normalement, on doit avoir des invités surprises.
Ah bon ?
C'est ce que j'ai compris. Mais ça ressemble un petit peu à la minute nécessaire.
Tiens, on va se mettre un petit comolade.
Un petit comolade en attendant.
Voilà, Smoke on the Water des... par comolade. Et puis ensuite, Egyptian Reggae de Jonathan Richman. Oh là là, il y a plein de monde qui arrive là dans ce studio. Alors, il y a plein de monde qui est arrivé. Là, c'est Guy qui a préparé tout ça. C'est...
Alors, on a 30 minutes là. On te séquestre. On séquestre ton émission. Donc, on va commencer avec deux. de collaborateurs, de partenaires de tumulte. Il y en a d'autres qui vont arriver après. Hein. Donc, Claude et Sylvie. Claude, toi, tu as préparé un disque. Alors, tu vas aller le donner à Jean pendant que bah, Sylvie... donc, elle...
Ça y est, ça
elle
y est.
Nous fait, elle nous fait sa millième.
Alors, Jean, tout exprès pour toi... Un petit clin d'œil qui nous vient, enfin pas un clin d'œil, un signe de Bobbio qui pense aussi à la millième de tumulte et à toi et qui se souvient de Radio Provisoire. Alors, un poème de Jean-Pierre Bobbio pour la millième de tumulte et pour Jean ce soir. Crevez le matelas de mots. Crevez le matelas de mots. Rêvez le matelas de mots. Ève et le matelas de mots. Videz le matelas de mots. Et les mots du matelas, qu'en ferons-nous? Zigzag les mots du matelas. Les mots du matelas, ah! Et le matelas de mots, sont-ce les mots du matelas? Mots du matelas, matelas du mot. Os du matelas, matelas d'eau. Tordez le matelas d'eau. Sortez les os du matelas. Ah ! Du matelas, deux mots. Un matelas, un mot. Un matelas, un mot. Mouillez le matelas, deux mots. Atlas de mort, tas de mort et de mots. Léchez, lâchez le matelas, deux mots. Asséchez, assez de mots. Soyez matelas, mots. Crevez le matelas de mots. C'est à Claude.
C'est clair, c'est clair, Jean.
Impressionnant. Voilà.
Merci,
merci hein, Sylvie.
Merci Sylvie pour ce joli clin d'œil à la millième de tumulte. Alors, Claude, toi, tu accompagnes Jean aussi depuis des années.
Hein, années
ouais. Notamment voilà. Au niveau musical. Hein, Tu collabores à sa programmation musicale un peu...
Voilà, j'étais un peu intervenant musical depuis quelques années.
Une programmation un peu quand même, comment dire, déjantée, anachronique.
Hein, un peu ouverte, un peu comme
enfin, je pense que toi, tu le remettais quand même dans le droit chemin. Hein, avec des choses quand même, parce que lui, sinon, si on le laisse...
Moi, je te laisse la responsabilité.
On le laisse avec ses disques, c'est tout. Il n'y a plus personne qui écoute BFM. Heureusement que tu étais là, Claude. Ouais. Donc, quelques souvenirs, peut-être un souvenir ou... Non.
Qu'est-ce
que t'as comme ça, tu viens comme ça, tu viens dans les mains dans les poches.
Dans les poches, j'ai juste préparé quelques morceaux de musique. Bon, bah. Et bah, pour suivre Sylvie, bah, là j'ai fait un effort sur les voix. Donc on va écouter, je vous ai amené un disque d'un régional qui s'appelle Louis Clantoine, qui est déjà passé à Arras il y a quelques années, et qui vient de sortir pour la première fois un album live. On va écouter un extrait de cet album, donc qui vient tout juste de sortir. Un album qu'il a enregistré non seulement avec son contrebassiste habituel, mais avec également deux autres guitaristes, et puis le batteur de Noir Désir, Denis Barthes. Et ça s'appelle Nini. Il ne faut pas toucher à Johnny. Louis Clantoine, enregistré en public. Alors une petite intro musicale et puis on retrouve Louis Clantoine en public et avec Denis Barthes à la batterie. Et Nini, faut pas toucher à Johnny. Louis Clantoine en public avec ses musiciens.
Qu'on me parle plus de mes vieux parents. Le premier qu'il fait, je lui rentre dedans. À peine si j'irai à leur enterrement. Il m'en reste qu'une, mais je leur garde une dent. Ils ont tout jeté dans le déménagement. Tous mes vieux vinyles sans ménagement. En disant mon grand, tu n'as plus 20 ans. Je leur causerai plus et jamais je mens. Oh. filora. Et mon héritage, je crois pas qu'elle l'aura. Elle aime pas l'Europe, préfère Barbara. Elle doit être la touffe où je m'y connais pas. Ça a commencé, elle m'a dit papa. Ton rocker de cœur, tu l'as vu mille fois. Il y a pas que ça, lis ce bouquin là. Tu vires au ringard, va à l'opéra. Anciens amis, c'était des jaloux, j'qu'ils aimaient Eddie. J'avais passé l'éponge, mais c'est vendredi. Il m'avait invité à bronzer dans le midi. Ouais, que cette grosse conne, je dis ce que j'dis. Elle a lavé le t-shirt, celui où jamais. En 78, t'avais tout vomi. Elle dit, ouais, c'est pas grave, il était pas joli. C'est bien, qu'est-ce que je disais? Elle voulait pas me faire chier!
Faut pas dire du mal de Thierry. Hein, je te l'ai toujours dit, ne jamais dire du mal de Thierry. Et Thierry nous a rejoint, il y a plein de monde là dans le studio. Il y a Easy Rider qui a fêté sa millième il n'y a pas longtemps, donc il pourra venir dire un petit mot aussi. Hein, il fume sa clope et il vient. Sinon, avant de laisser parler Thierry, et on n'en dira pas de mal, il y a Bernard qui est quand même directeur des programmes de Radio PFM, hein, ici au micro, ce qui n'est pas rien depuis quelques années. Alors, directeur des programmes de PFM, Bernard.
Merci, merci.
Attends, c'est pas merci, c'est ton poste.
Au début, c'était responsable programme tout doucement.
Non, mais c'est directeur maintenant, c'est directeur. Alors, une émission qui fête sa millième, ça fait quoi pour un directeur des programmes?
Ah, c'est bien! C'est bien, ça montre la longévité, ça montre aussi qu'il dure, qu'il arrive à se renouveler tout le temps avec des invités. C'est jamais la même mission depuis 1000 émissions à peu près.
Voilà, bon donc ouais. Aux auditeurs, aux auditrices, aux auditeurs qui veulent devenir directeur des programmes, hein, vous venez d'entendre une démonstration là, comment il faut parler pour être directeur des programmes à PFM. Bernard, merci, surveille parce qu'il y a la boisson, on va faire un petit peu la fête,
ouais.
Il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent venir, hein, n'hésitez pas. Donc il y a la boisson qui doit arriver, merci de surveiller, de surveiller la livraison. Alors il y a aussi Xavier. Xavier, donc, lui, il a rejoint l'équipe Tumult un peu plus récemment.
Ouais, assez tardivement. En fait, j'ai pas connu Jean avec les cheveux longs. Je l'ai pas connu Mao. Hein. Il y a que des restes. Je le regrette, mais bon. Ouais. Moi, je suis là, je fais chronique depuis 3-4 ans.
Là, tu viens de dire du mal de Jean.
Aïe, 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 aïe. Ouais, on réglera nos comptes ensuite.
Hein, ça va faire mal.
Xavier... Non, bah voilà, c'est chouette, quoi. Hein. Donc, depuis, ouais, ça fait 3 ans, je crois, que j'essaye tous les premiers mardis du mois de me faire virer. Hein. Mais il n'y a rien à faire, la parole est libre, on peut passer la musique qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire du mal de Nicolas Sarkozy. Et donc voilà, merci Jean pour cet espace de liberté.
Alors Thierry, un ami venu d'ailleurs. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment qui il est puisqu'il est cagoulé. Hein. Et les cagoules sont interdites, je pense. Hein. Mais il a retiré. Bon, dans les studios de PFM, on peut venir avec sa cagoule. Thierry, à toi le micro. Donc tu t'approches. Il a jamais fait. Donc voilà, hein, dans la millième du tumulte, une première. Thierry, alors on parle très près du micro.
Chers auditeurs, Nicolas Sarkozyste, chères auditrices, Carla Bruniste, pauvres écouteurs, écolos, gauchos, anarchos, NPAistes. Radio Paris mentait aux Français pendant la guerre, Radio PFM vous ment aussi, et ce depuis maintenant 1000 émissions. Le chroniqueur vedette de l'émission, plus connu sous le sobriquet de Jean, n'est qu'un usurpateur et un imposteur. À l'instar de France Inter qui donne chaque samedi rendez-vous avec X, PFN donne chaque mardi soir rendez-vous avec ce personnage secret et obscur, le susnommé Jean, pour une mission tumultueuse, mais qui se cache réellement derrière lui. Chez Jean, tout est faux, et il est temps ce soir de millième de rétablir la vérité sur ce sombre individu. Commençons par son prénom, Jean. Prénom des plus apostoliques, qu'il s'est accaparé pour qu'on lui donne le bon Dieu sans confession ni concession. Ce n'est pas le bon, c'est le diminutif de Jean Gilbert. Ringard, certes, mais le vrai, qu'il cache au plus grand nombre par honte et par dépit. Son nom, il ne vous le donne pas non plus, car s'y cache honteusement celui d'un ministre de l'Intérieur, dont Malik Oussekine garde un souvenir mortel. Dans le civil, Jean a italianisé ce nom, afin de le rendre plus chic, en pizzaïolo, mais par respect pour sa famille, je ne vous le livrerai pas. À l'écoute de sa voix légèrement suave, posée, envoûtante, un peu grave, l'auditeur n'imagine pas grand-chose. L'auditrice, célibataire, seule, isolée, en manque terrible d'affection, peut à cette heure un peu tardive se mettre à fantasmer et érotiser ses pensées à l'écoute de notre doux charmeur. Elle le rêve grand, jeune, beau, musclé, un peu chauve, sportif accompli, viril, cultivé, multilingue. Bref, le même effet que doit être en train de produire ce soir ma voix sur elle. Quel choc si vous le rencontrez au marché d'Arras, tard le mercredi ou le samedi midi. Oui, tard, car il négocie implacablement et froidement des rabais pour les invendus et fait ainsi une concurrence déloyale et impitoyable. Si, si, ben... aux nécessiteux qui, en ces temps de crise déjà auparavant, sont eux en véritable souffrance. Revenons à son physique radiophonique. Un ersatz ingrat de passe-partout de Fort Boyard. Il est petit, ratatiné, vieux, pas vraiment moche mais pas très beau non plus, un petit peu adipeux sur les flancs, chevelu tendance Stéphane Bern mais en moins choucroute, quelques poils d'artagnesque sur le menton, sportif et viril sur un déclin bien entamé, cultivé essentiellement grâce à son prompteur et seulement bilingue entre guillemets. Il n'annonce qu'un français approximatif, uniquement revendicatif, et la maîtrise de l'italien se limite à une phrase lue dans un train et apprise par cœur, « et pericoloso sport jersey ». Je sens l'excitation féminine retomber comme un soufflet. Rassurez-vous, je correspond intégralement aux critères sensuels des fantasmes féminins évoqués plus tôt, et dès que le pouvoir aura remis un peu d'ordre dans cette radio libertaire, j'assurerai l'émission qui remplacera « Tumulte » et qui s'appellera « Culbut ». Je vous donne en exclusivité le thème d'actualité de la première de mardi prochain. Faire l'amour sans préservatif, c'est mieux. Avec en invité vedette Benoît très étroit. Elle n'est pas de moi, mais je la trouve magnifique. Et Christine Boutin. Mais revenons à notre Jean. Quel si lourd secret peut se cacher dans un si petit corps pour sombrer dans cet anonymat? C'est en fouillant dans son passé que j'ai pu trouver quelques bribes de réponses. Des noms, il en a déjà changé moult fois, au gré de ses activités avouables ou non. Spécialiste du zizi, il se dénude en Jean Maire. Ancien acteur de films porno, il prend comme nom de scène Jean Foutre ou Jean Cul. Éleveur d'escargots, il devient Jean Bave. Chanteur vedette de U2 et en même temps bouche à la maillotine, il est Jean Bonneau. Grand défenseur des causettes perdues, le voilà Jean Valjean. Mais Thénardier accro à l'alcool de framboise ou de cerise dans un bouchon lyonnais, il vire Jean Guignolet. Corsaire et pris de liberté, il s'est aussi pris pour Jean Bar. Je clôt cette liste non exhaustive ici. Tu es Jean ce soir à l'aube de ta vie. Non, rassurez-vous, il n'est tout de même pas à l'article de la mort. Et de toute façon, la faucheuse du temps n'est pas réglée assez bas pour trancher aujourd'hui son destin. Tu es à l'orée d'une nouvelle histoire. Bientôt pensionné, futur papy gâteau, voire même assurément gâteux, tu auras encore de nombreuses occasions d'exercer ta passion et le fil rouge de ta vie. Ton engagement est ta lutte perpétuelle contre toute forme d'injustice, pour les libertés, contre les dogmes, l'hypocrisie, le racisme, l'incompétence, etc., etc. Un beau et vaste programme que tu auras beaucoup plus de mal à boucler que celui de mathématiques. Je te souhaite une longue vie encore pleine de tumultes, aussi de culbutes, mais ça ne nous regarde pas, beaucoup de bades et de foot ensemble, quelques galopins de lèvres à partager. Merci de te connaître.
Bravo Thierry. Hein. Bah, tumulte, c'est la millième.
Alors, Jean, c'est quand même mieux quand tu montes le curseur de nos micros. Eh bien, il y a deux émissions qui se rencontrent, les deux plus anciennes émissions de Radio PFM.
Ouais.
Easy Rider, ils sont avec nous. Là, les voix aussi, hein, ouais. Suave et compagnie, vous allez les reconnaître. Ils ont fêté leur millième il y a combien ?
Un an, presque.
Il y a déjà un an.
Ouais, ah,
donc, ils sont loin devant.
Bah, ils ont... si, ça marche. Ouais. C'est ce qui pose question, hein, comment on peut fêter la millième avant lui, qui est si vieux.
Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait?
On a juste 4 ans d'écart. Hein,
ouais, c'est ça, c'est vrai.
4 ans d'écart.
Ouais.
Avec.
Avec lui.
Avec, ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Bon.
Moi, en fait, je sais pas pourquoi je suis là, en fait, hein, parce qu'on m'a dit viens boire un coup, il y a un truc.
Ah ben, on va boire un coup, mais le problème, c'est que
la différence avec le millième, c'est que nous, on avait déjà commencé à picoler avant le début de l'émission, et là, visiblement, vous êtes tous sobres.
Ah oui, mais
et ça, c'est triste.
Bon, on sait pas à quelle heure ça se termine.
4-5 ans plus vieux aussi.
C'est ça,
c'est
une sorte de génération.
On a décidé de séquestrer, il y a beaucoup de séquestration en ce moment, le patron, etc. Donc, on a décidé de séquestrer le patron de PFM, on peut dire ça, quoi.
On peut dire ça comme ça.
Rider, qu'est-ce que vous faites pour séquestrer le patron de PFM ?
Bah nous, on est un petit peu la minorité visible de PFM, parce qu'on est la seule émission de droite,
ouais.
Revendiquée. Tu vois, il y a des quotas et on en fait partie. Donc,
il rigole plus.
Nous, on veut libérer les patrons, on est venu le libérer.
Parce qu'il va nous filer un picolet, surtout.
Oui, c'est plus à la Madeleine, parce qu'à un moment, c'était à la Madeleine.
Avant, oui, c'était notre tête pense. Enfin, notre ligne directrice dans l'émission, c'était à la Madeleine. Ouais, ouais, tu peux lever les chiots aussi.
Ouais, mais c'est lui qui décide, parce que c'est lui l'homme dans l'émission, tu sais. Donc,
Bon, alors, une question bateau.
Ouais. Hein,
et puis après, vous allez picoler. Bon, même si vous avez fêté la millième avant Jean.
Ouais, c'est ça qui.
Ouais, c'est quand même dingue, ça.
C'est ça qui est curieux.
Mais bon, Jean, est-ce que c'est un exemple pour vous?
Pas du tout. Pas du tout,
c'est un bel enfant. Contre-exemple.
Non, mais c'est vrai que nous, on a traversé un petit peu une petite partie, enfin une grande partie même de l'histoire de PFM. Mais ouais. C'est vrai que Jean, c'est un des pionniers de Radio PFM.
Et le pilier.
Ouais, ouais, carrément.
La conscience politique de la radio, faut le dire aussi. Il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que lui qui y croit. Mais c'est bien.
Donc on veut te rendre hommage, hein. Il faut continuer.
Ouais, ouais.
Parce que bon. C'est la millième de tumulte, hein. C'est pas la millième de Jean.
Oui, mais
quand même.
C'est ton émission. Son émission, on aurait ramené un petit morceau, un petit quelque chose.
Bah ouais, ah bon.
Ouais, j'ai ramené, mais. Attends, je monte à peine les marches. Ouais. Tu vois,
T'as un disque là?
Ouais, non, pas tout de suite. Mais...
Bon, essaie d'aller le trouver. Alors merci.
De rien.
Aux camarades. Easy Rider.
Et on va boire rapidement.
Voilà, ouais, ça arrive. Hein.
Merci.
Donc, merci de laisser la place. Hein, ça va vite on s'en va. Ce soir. Et
ça
donc.
C'est la démocratie.
Voilà,
c'est bien.
C'est comme ça, oui. Allez, c'est bon.
Au revoir, monsieur les censeurs.
Vous l'avez épuisé, c'est bon. Hein, donc,
tout à l'heure, on va revenir. Parce
ouais, bah, bien sûr. On passe à Jean. J'ai envie de dire, sans doute, tes deux invités favoris de l'émission Tumulte. Il y en a un qui est derrière moi et qui va bientôt s'asseoir voilà, au micro, qui va prendre un casque. Ils sont rodés, hein, c'est pas leur première. Micro de PFM, ils y ont souvent causé, et dans Tumulte en particulier, Didier de Colère du Présent et Max Gaillard, ex.
J'ai cru que tu allais dire une bêtise. Hein.
Qu'est-ce que tu voulais que je dise comme bêtise? Bah,
j'ai cru que tu allais dire directeur
retraité.
Du théâtre.
Non, à toute manière, directeur du théâtre un jour, directeur du théâtre toujours, hein, n'est-ce pas, Max? Bon, Max. La millième de Tumulte, tu y crois?
Oui.
Alors Max, bon, il faut parler bien près du micro. Hein,
j'ai dû participer à la 250e.
Ouais, 250e.
Pas loin. 91.
Donc, 91, ta première. Donc Jean, là c'est à Jean qui demandait ça.
Septembre 91.
Ça fait 9, 18. Ouais, c'est
ah ouais, c'est ouais, ça, ouais. Les trois quarts. Hein, donc
allez, voilà, 250, c'est ça. 249e. Voilà.
Donc quand t'es venu ici la première fois.
C'était la 249e. Ouais, et moi ma première.
Ouais. Et tu t'es pas dit que 750 émissions plus tard, tu serais encore là, quoi.
Non, si. Non, il y avait tellement de poussière au théâtre. Je pensais que j'arriverais pas à faire le ménage.
Puis il y avait aussi de la poussière à PFM, hein, c'est pour ça que ça s'appelle PFM. Mais il y en a toujours la poussière à PFM. Non,
c'était plutôt bien parce qu'il trouvait, Jean trouvait vachement bien le programme que j'avais fait, ce qui m'avait quand même rassuré.
Ah. Didier.
Ouais.
Pareil, hein. Toi, c'était quand
c'est beaucoup plus tard que Max Gaillard quand même.
Il est plus jeune.
Ah ouais. C'est quand?
Plus les premières, enfin c'était même pas pour Colère du Présent, les premières c'était sur le CARAF, les conférences à l'école d'éducateurs, des choses comme ça, c'était 96, ouais. 97.
Donc toi, 1000 émissions, ça te fait quelque chose?
Non.
Non,
non,
non.
Ça...
Donc pourquoi t'es venu alors?
Bah pour un coup, on m'a dit qu'il y avait à
et
avoir.
Puis pour dire quoi? Non mais quand même, on te donne l'antenne.
Bah sinon, si quand même. Si.
Non, ouais, on te donne l'antenne, remercier, 60 secondes.
Remercier Jean quand même, tu vois, parce que pour ces questions pourries qu'il me pose à chaque fois, ouais. Qu'on s'attend jamais. Et à chaque fois, on est toujours emmerdé avec ces questions. Quoi. Je trouve que c'est
donc la dernière question pourrie qu'il t'a posée, c'est quoi?
Je sais plus.
Bah si, c'était venu, là, tu me l'as dit, là, t'es venu là, pour présenter le salon, ouais, le 8e salon.
Ouais.
Donc première question, il t'a dit pourquoi les écrivains sont aussi mal installés, c'est pas ça, non?
Par exemple, ouais, voilà. Du genre, t'attends à tout, présenter le programme et tout, puis pourquoi les écrivains sont si mal installés.
Bon alors t'as une deuxième chance,
ouais.
Hein, la première fois t'étais pris de surprise, bon là t'as préparé, alors pourquoi ils sont si mal installés les...
Ah bah, c'est parce que c'est Guy Lesniewski qui s'occupe du chapitre des auteurs.
Bien répondu, voilà quelqu'un qui a de la répertie. Vas-y.
Non, mais c'est tout. Je suis très content d'être là. Et voilà, puis, j'étais pas là pour la première, mais pour la millième.
Voilà.
J'espère que je serai là pour la 2000e.
On va boire un coup. Jean, il nous reste combien de temps là?
Eh ben là, il te reste 4 minutes, 5
il
minutes.
Il reste 7 minutes. Là, qu'est-ce qui vient dire un mot? Qu'est-ce qui vient là? Allez, qu'est-ce qui vient? Slimane.
Sinon, t'invites Claude pour présenter le.
Ah oui, puis Claude, tu vas revenir aussi pour présenter un autre morceau. Slimane, tu veux pas dire un petit coucou hein, à Jean ? Si, allez Slimane. Alors Slimane, je pense que tu as aussi participé, toi, il y a quelques années, tu as été interviewé à plusieurs reprises, non, par, par Jean. Slimane,
donc,
vas-y.
Jean que j'ai connu à l'époque du CARAF, voilà, et le collectif de sans-papiers. Et puis de là, depuis ce temps-là, on a toujours gardé des liens d'amitié. On a joué au football ensemble.
C'est vrai. Oui.
Alors, à une période, on jouait au football, on s'éclatait, n'est-ce pas, Jean ?
Et lui, il joue toujours. Hein.
Oui, oui. Moi, je cours maintenant. Hein. Je ne joue plus au foot, mais je cours. Voilà, et puis bon, moi, je dirais merci à Jean pour tout ce qu'il fait, pour son engagement sur différentes choses. Et puis voilà, bon courage, bonne continuation. Et on est là.
Merci, Slimane.
Merci, Slimane. Alors, Claude, bon, il y a du monde. Hein. On ne peut pas donner la parole à tout le monde ici dans le studio. On va se retrouver ensuite pour Barincoute. Je vous répète, hein, si vous êtes à proximité de la Grand Place, n'hésitez pas à venir partager ce petit moment d'amitié, de sympathie à l'occasion de la millième de Tumulte. Alors Claude, c'est toi qui conclut.
Je vais conclure, je vais surtout conclure musicalement, et donc je vais annoncer le morceau qui suit. Et toujours pour rester fidèle à l'image de l'émission depuis le début, c'est-à-dire l'ouverture musicale depuis que l'émission existe. Et là, on va écouter un groupe de ska qui était passé à Arras il y a quelques années, un groupe de Sheffield qui fait du ska très engagé, qui s'appelle Spithead, ça s'appelle Cold Police.
C'est avec cette musique que se termine cette millième émission de Tumulte.
Ouais, rendez-vous pendant 1000 ans, hein. Rendez-vous dans 1000 Tumultes. Bon Jean, tu nous mets de la musique en fond là pour la partie apéro, puisqu'on va boire l'apéro. Maintenant, on va fêter, on va vraiment la fêter cette millième.
Tumulte à suivre. À la prochaine.
Justice. Place.